Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, de nouvelles révélations dans l'affaire Maëlys. Nordal-Lelandais a changé de version au cours de la reconstitution organisée toute la nuit dernière. Jusqu'à présent, vous le savez, il affirmait avoir tué la fillette par accident. Désormais, il reconnaît lui avoir donné plusieurs coups violents sur le parking d'un centre commercial de Pont de Beauvoisin, là où les enquêteurs se sont longuement arrêtés la nuit dernière. Alors dans RTL Soir, on va vous raconter en détail ce nouveau rembaudissement plus de 6 mois après les premiers aveux de Nordal-Lelandais. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Un enfant, si je veux, quand je veux. Le comité d'éthique donne son feu vert à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, en couple ou pas, hétérosexuelles ou pas. Feu vert également à la levée de l'anonymat des donneurs de sperme.
Et à 18h20, première invité d'RTL Soir, le président du comité d'éthique, le professeur Delfrécy.
L'Aquarius va finalement accoster à Malte, mais les 58 migrants présents à bord seront finalement accueillis par la France, l'Espagne et le Portugal. Quand le monde entier se moque de Donald Trump, éclat de rire planétaire à l'Assemblée générale de l'ONU lorsque le président américain a vanté son bilan du jamais vu. À suivre également, le trou de la Sécu n'existe plus, budget excédentaire pour 2019, mais il y a encore des efforts à faire sur les médicaments génériques. Si vous les refusez, vous serez moins bien remboursé. Jean-Pierre Pernaut, opéré d'un cancer de la prostate, le présentateur s'absente du 13h de TF1 pour quelques temps. Et puis la planète golf a rendez-vous en France. Ryder Cup à partir de vendredi et aujourd'hui, premier mot de la star, Tiger Woods.
Génial.
La Bourse de Paris, elle termine quasi à l'équilibre ce soir à 5 479 points. Les courses à Fontainebleau, il fallait jouer le 13, le 6, le 8, le 7 et le 2.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, c'est une des grandes réussites européennes, la fusée Ariane 5. Ce soir, ce sera le 100e lancement du lanceur. Mais concrètement, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça a changé? Puis direction les coulisses de l'actualité, Paris sur son 31 pour la Fashion Week. Toute la semaine, les plus grandes maisons de haute couture présentent leur dernière création. On vous amène en coulisses. 18h30, Alain Duhamel, la question de la PMA. 18h35, après avoir tiré à boulets rouges sur les policiers, Yann Moix regrette des propos grossiers. Mais est-ce qu'il s'excuse sur le fond? Le polémiste polémique, toujours pas couché, s'explique tout à l'heure donc sur RTL. 19h15-20h, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Demain, soleil et fraîcheur.
Exactement, beaucoup de soleil comme aujourd'hui, avec même du ciel tout bleu quasiment dans toutes les régions. Quelques nuages le matin autour du golfe du Lion. Ça se dissipera l'après-midi. Il restera un petit peu de vent aux extrémités de la Corse comme aujourd'hui, jusqu'à 70-80 km/h. Et avec ce soleil, grand contraste entre le matin où la vie aura de la fraîcheur, peut-être quelques gelées même dans le nord et le nord-est, en tout cas entre 0 et 5-6 degrés. Et puis l'après-midi où ça remontera un petit peu par rapport à aujourd'hui. 19 à 24 ou 25 degrés dans la moitié nord et 25 à 29 dans le sud.
A tout à l'heure, Louis Baudin.
RTL Soir.
Quelques mots qui changent tout. Nordal-Lelandais ne raconte plus la même histoire au sujet de la mort de Maëlys, Isabelle.
L'ancien militaire a toujours affirmé qu'il avait tué la fillette involontairement en la giflant rien qu'une fois dans sa voiture. Il a été entendu vendredi avant une reconstitution la nuit dernière et désormais il ne parle plus d'un accident, Nicolas Burnand.
Oui, selon une source proche de la famille de Maëlys, Nordal-Lelandais affirme désormais avoir donné 4 à 5 coups très violents à la petite fille. Lors de la reconstitution la nuit dernière, l'ex-militaire a d'ailleurs mimé les gestes infligés à l'enfant sur un mannequin vêtu d'une robe blanche. Jusque-là, il avait seulement reconnu avoir tué par accident la petite fille en lui donnant une gifle lors d'un trajet dans sa voiture, alors que Maëlys paniquait. Hier soir, Nordal-Lelandais a même emmené les juges d'instruction jusqu'à l'endroit où il aurait porté ses coups, sur un parking aux abords d'un centre commercial de Pont de Beauvoisin, à moins de 5 minutes de la salle des fêtes. C'est là que le convoi s'est arrêté durant près d'une heure, les gendarmes tendant de larges draps blancs et coupant l'éclairage public pour empêcher les journalistes de capter des images. Ce soir, ces nouvelles révélations mettent à mal les déclarations précédentes et la thèse de l'accident, jusque-là soutenue par le meurtrier présumé de la petite Maëlys.
Information RTL signée Nicolas Burnand.
3 mois de prison avec sursis pour le père du petit garçon qui avait été sauvé d'une chute par Mamoudou Gassama, ce sans-papiers malien. Il avait laissé seul son fils de 4 ans. Il devra effectuer à ses frais un stage de responsabilité parentale.
Toutes les femmes doivent avoir le droit de faire un enfant. Le comité comité d'éthique a tranché, la PMA pour toutes, c'est oui.
L'impossibilité d'avoir un enfant est une souffrance qui doit être prise en compte, disent les experts, même si les raisons ne sont pas biologiques. Déjà, la Manif pour tous dénonce un avis qui n'est pas éthique, mais politique, et elle promet des manifestations de grande ampleur. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir.
C'est une étape importante, mais ce n'est qu'un avis. Que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, la décision est désormais dans les mains d'Emmanuel Macron. C'est le chef de l'État qui décidera. Et bien sûr, cet avis du comité d'éthique va dans le sens de sa promesse de campagne. Et puis, il est poussé par sa majorité, notamment les députés parisiens qui veulent aussi le remboursement par la sécurité sociale. Il y aura bien une liberté de vote chez les marcheurs sur le sujet, mais les voix hostiles sont peu nombreuses, ou en tout cas, elles se font peu entendre. Donc, tout concourt à ce qu'Emmanuel Macron décide d'honorer son engagement d'une PMA pour toutes. Le président a beaucoup consulté ces derniers mois, des dîners avec des philosophes, des médecins et des représentants des cultes, bien sûr, pour tenter de déminer un sujet qui demeure clivant. Même si les Français y restent favorables dans les sondages, les opposants sont déjà très mobilisés. Le chef de l'État est conscient du risque, explique ses proches. Il garde en mémoire l'enlisement du mariage pour tous. À l'Élysée, l'idée est donc d'aller vite. L'arbitrage présidentiel est attendu au plus tard en novembre, avant un projet de loi du gouvernement en décembre, puis un débat dans la foulée au Parlement.
Benjamin Sportouche du service politique de RTL.
Le comité d'éthique s'est prononcé sur bien d'autres sujets. Il préconise notamment la levée de l'anonymat des futurs donneurs de sperme, à condition qu'ils soient d'accord. En revanche, il reste opposé à la GPA, la gestation pour autrui. Pas question non plus de toucher à la loi sur la fin de vie qui interdit l'euthanasie.
On en reparle à 18h20 avec le président du comité d'éthique, le professeur Delfraissy. Pas une, mais trois terres d'asile pour les 58 migrants de l'Aquarius, la France, l'Espagne, le Portugal.
Oui, c'est le gouvernement portugais qui l'annonce. Les trois pays ont trouvé un accord. Pour autant, Brice Dugénie, eh bien c'est à Malte que le navire humanitaire doit accoster.
Oui, Malte est le port le plus proche et le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, a donné son feu vert il y a un peu moins d'une heure. Alors, selon les autorités maltaises, ça vient de tomber, l'Aquarius ne va pas exactement accoster, il va rester dans les eaux internationales et les réfugiés seront transbordés dans un navire maltais pour rejoindre l'île. Et de là, ils seront renvoyés, non plus vers trois, mais quatre pays européens. La France, l'Espagne, le Portugal et un quatrième qui est encore inconnu. Après un premier refus, Malte a donc fini par accepter d'ouvrir son port. C'était en fait le scénario souhaité par la France, épilogue similaire à celui d'août, déjà à Malte, de juin en Espagne. Et dans les heures qui ont précédé cette annonce, on sentait qu'un accord semblait se dessiner sur la répartition des réfugiés, puisque c'est le Portugal, dès le début d'après-midi, qui a annoncé avoir trouvé une solution avec l'Espagne, la France, pour accueillir 10 des 58 passagers. Il y en aura 10 au Portugal. Impossible pour l'instant de savoir où et comment seront répartis les 48 autres, entre donc la France, l'Espagne et un dernier pays européen encore inconnu.
Brice Dugénie du service étranger de RTL. Direction Isabelle maintenant, New York, où se tient en ce moment même l'Assemblée générale de l'ONU. Eh bien, figurez-vous que ça rigole.
Oui, Donald Trump est monté à la tribune pour un long discours où il a ciblé tous azimuts, l'Iran, la Chine, le Venezuela. Mais ce que l'on retiendra de cette diatribe, c'est l'éclat de rire général lorsque le président américain a vanté son bilan. Écoutez.
En moins de deux ans, mon gouvernement a accompli davantage que presque aucun gouvernement dans l'histoire de notre pays. C'est si vrai. Je ne m'attendais pas à cette réaction, mais c'est OK.
Donald Trump, toujours aussi surprenant, on va dire ça comme ça. Emmanuel Macron lui est attendu à la tribune d'une minute à l'autre. Son tête-à-tête hier avec le président américain a été nettement moins cordial que précédemment. Manuel Valls, lui, s'apprête à faire son entrée sur la scène politique espagnole. L'ancien Premier ministre doit annoncer ce soir sa candidature à la mairie de Barcelone. Conférence de presse dans moins d'une heure.
On sera évidemment à Barcelone dans le journal de 19h.
RTL Soir, il est 18h08.
Une pause et ensuite, le budget de la Sécu. Le gouvernement veut plus de médicaments génériques sur les ordonnances.
18h10, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et on n'avait pas vu ça depuis 18 ans, Isabelle. Le fameux trou de la Sécu est enfin comblé.
Oui, c'est un budget en excédent que le gouvernement a présenté ce matin. 800 millions d'euros de marge, une bonne nouvelle à nuancer. Pour y arriver, il a fallu rogner sur les pensions de retraite et sur les allocations familiales. Et conséquence directe, eh bien, nous serons de nouveau en déficit l'année prochaine. Cela dit, pour limiter la casse, le gouvernement veut mettre le paquet sur les médicaments génériques. Les patients qui les refusent seront moins bien remboursés à partir de 2020. 2020. Et les médecins qui ne les prescrivent pas devront se justifier. Des mesures qui ne passent pas très bien, Étienne Baudu.
Oui, écoutez, aujourd'hui, le médecin est obligé de proposer à son patient le médicament générique, mais il a encore la possibilité de prescrire le médicament original, le Princeps. Mais désormais, il lui faudra aussi justifier clairement pourquoi son patient ne peut pas prendre le générique, par exemple s'il est allergique, et il devra, à la main, l'écrire sur l'ordonnance. Bref, des tracasseries inutiles pour le docteur Lucien Chauliac de la coordination des syndicats médicaux de France. Pour lui, le plus important est ailleurs.
Je demande aux autorités de santé de bien faire attention à ce que la qualité des génériques soit assurée et maintenue, parce que tout est là. Si on a une qualité de générique qui est tout à fait équivalente à celle du Princeps, on est tout à fait prêt à se battre pour que des génériques soient délivrés à ce moment-là. Mais pas via ce type de contraintes vexatoires et administratives qu'on refuse absolument. Ah, moi, je ne le ferai pas.
Le docteur Chauliac qui préconise également une nouvelle campagne auprès des Français en faveur des génériques, car le problème, c'est qu'une majorité de patients restent réticents face à ces médicaments, à l'image de Cathy.
Moi, je suis dubitative.
Le doute, en fait, c'est qu'on pense que le générique soit moins bon que l'original.
Bref, la bataille des génériques et les économies qu'ils génèrent n'est pas encore gagnée.
À Marseille pour RTL, Étienne Baudu.
Le bilan de Parcoursup, 950 45 bacheliers restent sans affectation. Ils vont être accompagnés par des commissions rectorales. Changement en vue pour l'an prochain. Le dispositif sera clos en juillet et non pas en septembre.
Il a fêté ses 30 ans d'antenne en février. Jean-Pierre Pernaut va s'absenter quelques temps du 13h de TF1, Isabelle, pour soigner un cancer de la prostate.
Oui, le présentateur est remplacé depuis hier par Jacques Legros et dès aujourd'hui, il a donné de ses nouvelles sur Twitter. J'ai subi une intervention chirurgicale. Tout va bien. Bonsoir Isabelle Morini-Bosque.
Bonsoir tout le monde.
Cette volonté de transparence remonte en fait à la maladie de son épouse.
C'est exactement ça. Il n'est pas encore marié à Nathalie Marquet quand elle doit affronter en 97 à 30 ans la forme la plus violente de la leucémie. Mais il est bouleversé quand elle publie en 2005 chez Michel Lafon Le cancer en face, un livre dans lequel elle raconte sans tabou, chimio et ses jours en chambre stérile. Ils se jurent alors qu'ils regarderont toujours en face cette maladie à dédiaboliser, plus que jamais décidée quand une récidive est redoutée, Dieu merci à tort, en 2014. Jean-Pierre Pernaut est donc particulièrement préparé quand récemment des analyses réveille chez lui une atteinte de la prostate. Après avoir prévenu en douceur TF1 et assuré la semaine sur le patrimoine, il passe donc en douceur hier le relais à Jacques Legros. Le temps, dit-il à son équipe, d'être opéré et de me retaper. Opéré, il l'a donc été ce matin. Il est très bien soigné, précise alors Nathalie Marquet sur les réseaux sociaux. Ce qu'il confirme peu après, tout va très bien, je vous retrouve très vite, on peut le croire, car comme il est mal répété, je dis toujours ce que je fais toujours ce que je dis.
Merci Isabelle Morini-Bos, spécialiste télé de RTL. C'est le rendez-vous incontournable des golfeurs. Tous les deux ans, la Ryder Cup débute vendredi en France avec une star mondiale, Tiger Woods.
Oui, l'Américain qui a vécu une descente aux enfers fait son grand retour 6 ans après, plus en forme que jamais. Et il a donné cet après-midi sa première conférence de presse. Isabelle Langer, vous avez assisté à ses premiers pas sur les greens du Golf National de France.
Oui, je peux vous dire qu'il y avait foule ce matin lors du premier entraînement du Tigre, un Tiger Woods qui a apprécié le moment.
C'était agréable de se dégourdir les jambes, de prendre l'air et de taper un peu. Surtout agréable de ne pas jouer avec plus de 35 degrés. Ça m'a évité de changer tout le temps de t-shirt.
La température est pourtant montée quand il a donné sa première conférence de presse devant une foule de journalistes. Le sourire aux lèvres, très détendu, l'Américain a avoué ne pas avoir répondu aux quelques 150 SMS qu'il a reçus après sa victoire dimanche à Atlanta. Il ne l'a pas fêté non plus, mais il est heureux de participer à cette Ryder Cup qui ne lui a pourtant pas vraiment réussi jusque-là. Une seule victoire en 7 participations. Toutefois, l'Américain espère qu'il mettra fin à cette disette dimanche et que l'ambiance sera semblable à ce qu'il a vécu pour la 80e victoire de sa carrière.
La tradition avant c'était d'applaudir, mais c'est fini maintenant. Comment voulez-vous applaudir avec votre portable dans la main? Aujourd'hui les gens crient, même très fort, surtout en fin de journée quand ils ont un coup dans le nez. Je pense que cette semaine ce sera pareil qu'à Atlanta, même plus fort.
Une chose est sûre, pendant cette semaine de Ryder Cup, le match a beau opposer l'Europe aux États-Unis, s'il y en a un qui sera autant acclamé par les supporters des deux camps, bah c'est bien Tiger Woods.
Isabelle Langer du service des sports de RTL, à tout à l'heure. Isabelle, choquée 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. 22 ans de service, 96,5% de réussite. La fusée Ariane 5, qui fête ce soir son 100e lancement, fait la fierté de l'Europe. Mais concrètement, à quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle a changé dans notre vie de tous les jours, Virginie Garin?
Eh bien, si vous avez des prévisions météo de plus en plus précises, c'est grâce aux satellites lancés par Ariane. Si vous téléphonez à l'autre bout du monde, c'est aussi grâce aux nombreux satellites de communication qu'elle a mis en orbite. Les modèles les plus récents de téléphones utilisent désormais le système Galileo déployé par Ariane, le concurrent du GPS. Depuis 22 ans, évidemment, elle a aussi contribué à des programmes scientifiques. Elle a envoyé la sonde Rosetta parcourir 8 milliards de kilomètres pour atteindre la comète Chury. Elle va lancer le mois prochain une sonde vers Mercure. C'est donc une fusée polyvalente qui a été pendant plus de 20 ans le premier lanceur de satellites au monde.
Mais ce n'est plus le cas, puisque Ariane 5 n'est plus assez compétitive. Elle va disparaître ?
Oui, voilà, car l'an dernier, Ariane 5 a perdu sa première place, dépassée par SpaceX, la fusée américaine d'Elon Musk, capable de revenir sur Terre. Alors les Européens ont décidé de mettre au point une fusée moins lourde, moins coûteuse, Ariane 6. La dernière Ariane 5 sera lancée en 2022.
Merci beaucoup, Virginie Garin.
RTL Soir, il est 18h16.
Dans le journal, vous avez entendu Brice du Génie parler donc de l'Aquarius et des 58 migrants. La France, l'Espagne, le Portugal vont les accueillir. On vient d'apprendre le quatrième pays, l'Allemagne également, dans l'accord donc de répartition de ces 58 migrants.